Donc on va essayer de trouver les moutons. Donc les chiens, ils ont bilingue, ils prennent tous leurs commandes en voix, ils connaissent toutes leurs commandes en voix et en sifflet. Et donc là, ça que je sifflais, c'était juste d'avancer dans une ligne droite. Mais elle a aussi gauche, droite, stop. Et on va regarder ça un peu. Donc là, je vais l'appeler. Vous voulez gauche ou droite?
Allez, gauche.
Gauche. Donc là, elle va contourner le mouton à gauche. Elle va se placer derrière. Elle va les amener vers nous. Je m'appelle Sabine Heller, je viens de la Suède. En fait, j'avais commencé ma vie professionnelle, je suis ingénieure en physique et je travaillais dans le monde de télécom informatique. Et avec ce travail, m'a amené en Japon où je travaillais pour une entreprise, j'étais responsable de l'Orient. C'est Hong Kong, Chine, Taïwan, Corée et Japon et j'ai habité à Tokyo pendant 8 ans. Et j'étais invitée par l'ambassade de Suède de travailler pour eux comme diplomate, comme attachée sciences et technologies. Et quand j'ai quitté le Japon, j'étais très très fatiguée, c'était un travail très intense. J'ai décidé que j'avais vraiment besoin de changer un peu le rythme de ma vie. J'ai décidé de me laisser quelques mois, d'essayer quelque chose de complètement différent. Et j'ai commencé à travailler avec des chiens, dans des refuges pour les réhabiliter. Et en fait, la race qui avait le plus de problèmes, qui souffrait le plus de vivre dans l'environnement d'une refuge, c'était le border collie, qui était souvent très, très traumatisé par ça qui les est arrivé. Et j'ai essayé de réhabiliter, et c'était très difficile. Et j'ai décidé d'essayer avec des moutons, parce que bon, c'est quand même une race qui est faite pour. Moi, je connaissais pas du tout de moutons, autre que sur de paquets de produits, de laine, de choses comme ça. Mais bon, j'ai essayé. Et le résultat était vraiment, vraiment touchant et très dramatique sur le chien. Quand on le mettait au travail, ça avait un impact énorme sur ces chiens qui étaient vraiment pas bien. Et donc, je commençais, il fallait que j'apprenne le métier, l'animal, mouton, je ne connaissais rien. Ça me semblait très, très grand. Si on compare avec le chat et le cochon d'Inde que j'ai vu étant petite. Mais je commençais à travailler à gauche et droite chez des éleveurs de moutons. Je les ai dit, je peux travailler gratuit pour vous si vous m'apprenez votre métier. Et après une année comme ça, une de ces éleveurs avec qui je travaillais m'a offert une agnelle comme cadeau pour mon anniversaire. Donc, évidemment, j'ai vendu ma maison, j'ai quitté mon travail, j'ai acheté une ferme pour pouvoir héberger mon agnelle dans une manière appropriée. Et ça a commencé comme ça. Donc, je commençais avec 7 moutons et parce que la personne d'où j'ai acheté mes moutons avait une petite camionnette qui prenait 7 moutons à la fois. Donc, j'avais 7 moutons, 14 moutons, 21 moutons, 28 moutons. Et maintenant, j'ai plusieurs 100 moutons et je vis de mon élevage et aussi de formation de chiens troupeaux.
C'est ça. En fait, Sabine, vous avez toujours gardé à la fois le contact avec les chiens et les moutons.
C'est ça, exactement. Comme je commençais en fait avec les chiens, je trouve cette métier de travailler avec un chien berger sur des moutons, c'est quelque chose de très, très ancien. Mm-hmm. Ça n'a pas changé depuis le début de l'humanité. C'est un travail sans aucune technologie. C'est le berger, c'est le chien et c'est le mouton. Ça n'a pas changé. C'est le même chien, c'est le même mouton. Et je trouve ça extrêmement touchant d'avoir un travail qui est un métier qui est tellement basique et lié, qui a suivi toute l'évolution de l'humanité, la civilisation, qui est un travail qui est exactement le pareil comme c'est écrit dans la Bible et même avant. Je suis très passionnée et très touchée d'avoir cette métier.
Alors, vous nous avez expliqué avoir appris le métier sur le tas, en fait. Alors un mouton, tout le monde croit savoir ce que c'est. Mais comment on apprend vraiment à connaître cet animal ?
Ben, en fait, beaucoup de monde, quand il vient ici, il dit que des moutons sont stupides, c'est un animal
con. Qu'on dit.
Oui, mais c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Et comme tous les animaux, le mouton est un expert dans son niche, dans son situation. Donc tout ce qui concerne, évidemment, il peut pas faire mathématiques, mais ils n'ont pas besoin. Mais dans leur niche de vie, dans leur manière de vie, ça sont des experts. Et ils sont, par exemple, des experts, mes moutons sont des experts de chiens bergers. Moi, je fais souvent des tests d'instinct de chiens bergers et moi, j'ai besoin de 10-15 minutes pour savoir si ce chien va pouvoir faire du travail sur ton pot ou pas. Mes moutons, ils le savent dans 5 secondes. Hein. Ils savent tout de suite lire le chien. Aussi, ben, il y a des autres, par exemple, mes moutons, pendant l'hiver, je leur donne des granulés d'une certaine heure et ils connaissent ma voiture. Ils savent quand c'est ma voiture et quand c'est des autres voitures. Ils savent quand je suis un peu en retard, je me fais beaucoup hospiter. Et ils sont vraiment, il y a des situations où nous on lutte pour être plus intelligent que le mouton, mais on se fait avoir beaucoup. Par exemple, quand il y a le sujet de clôture, ben, les moutons sont des experts de clôture. Et nous, avec toute l'expertise comme on a, comme des humains, tous les outils qu'on a, le mouton est quand même plus fort que nous.
Hein. Alors, comment se passe une année au rythme des moutons ?
Ben, les moutons, si on dit ça commence le printemps avec l'annelage, on peut dire que ça commence par là et après, ben, les petits, ils grandissent jusqu'à quand ben, on le veille, on le surveille vraiment proche, jusqu'à quand ils ont l'âge et la force d'être indépendant. On a passé la période le plus dangereuse pour eux, quand ils sont le plus vulnérables. Après, on peut souffler un peu, on peut les sortir dans les pâtures et on profite de l'été où il y a une abondance de herbes. Nous, les bergers et les moutons, on souffle tous un peu et on essaye de se retaper pour l'automne. Et l'automne, il y a la lutte, c'est quand on met le beau papa, le beau bélier avec les belles filles, avec les brebis. Et la lutte, c'est donc important, on les laisse tranquilles pour qu'ils ont une situation le plus romantique possible. On met la musique douce, on essaie de le laisser très tranquille pour qu'ils font leur travail. Et après, ben, l'hiver, il faut s'en occuper. C'est un travail beaucoup plus intense pour nous parce qu'il n'y a pas d'herbe. Il faut s'occuper. Il faut le mettre quelque part où il y a du foin. Il faut s'occuper qu'ils n'ont pas froid, qu'ils n'ont pas soif, qu'ils n'ont pas faim, qu'ils restent propres, qu'ils souffrent pas de la boue, tout le problème qu'on peut avoir avec le temps, le météo. Et après, ben, ça recommence. Donc, à la fin de l'hiver, quand on est le plus fatigué, ben, c'est là que commence l'annelage. Et c'est encore cette période très, très intense. Donc, ça, c'est l'année de la vie de moutons.
Très bien. Alors, les moutons, ils vivent en troupeau. C'est quoi la dynamique d'un troupeau ?
Ah ! Ah ben oui, non, c'est vraiment une famille, ils ont leurs amis, ils ont les copains qu'ils supportent pas trop, il y a des moutons qui veulent pas se voir du tout. Normalement, ça se passe très bien. Moi, j'aime beaucoup une raison que j'aime les moutons comme animal, que ça demande très peu. Et c'est juste avoir un petit coin avec d'herbe, un peu d'ombre, d'eau, et ils se disputent pas entre eux, ils se cherchent pas de conflit avec des autres animaux. Ils sont vraiment un animal très calme. Quand je regarde mon prairie, il y a d'herbe, il y a mes moutons, mes animaux tout rondes et heureux. Bah, tout, n'importe qu'est-ce qui se passe dans le monde, bah, au moins ici, tout va bien. Et ça me rend heureux. Vraiment, ça me donne une paix dans l'âme que parfois c'est difficile à trouver. Mais c'est vrai, comme je dis, ils ont leur ami préféré. Et là, par exemple, j'avais une jeune brebis qui boitait hier. Donc, je la transférais de le lot où elle était dans un lot que j'ai qui reste à la maison pour avoir des soins. Mon petit infirmier mairie. Mais hier matin, quand on avait sorti, elle avait traversé, elle n'avait pas sauté au passé du sous, le clôture, mais traversé le clôture. Elle a fait un grand trou, elle a dû vraiment taper dedans pour rejoindre son groupe à elle, avec ses copines. Elle ne voulait pas rester là avec les autres qui boitaient, elle voulait être avec ses copines. Donc elle avait, malgré sa patte qui la faisait mal, elle a vraiment fait un grand trou, vraiment tapé dans le clôture pour rejoindre ses copines. Ils ont quand même des relations, ils se connaissent, et les mamans et les petits, quand je change les lots, et par hasard, il y a une Agnelle qui se retrouve avec sa maman, ils se rappellent que c'est maman, là.
Si on est chez vous aujourd'hui, Sabine, et merci de nous recevoir d'ailleurs chez vous, c'est parce que vous allez faire affaire, si j'ose dire, avec le Conservatoire d'Espaces Naturels. Alors, comment a débuté cette aventure pour vous ?
J'ai été en contact il y a quelques années avec le conservatoire, justement pour leur demander si on pouvait travailler ensemble. Et ça a donc aujourd'hui eu ce résultat qu'on a réellement. Donc moi j'ai mis mes moutons il y a quelques jours sur une de leurs sites qui est vraiment magnifique, et ça fait un énorme plaisir de travailler dans un endroit comme ça, et avec des personnes qui sont aussi passionnées par la nature comme nous. C'est quand j'ai amené les moutons, il faut qu'on aille le dernier bout, on va à pied, on roule avec la voiture, et la route devient un chemin qui devient de plus en plus petit, et finalement il faut qu'on s'arrête, et on ouvre la bétaillère, on prend les moutons à pied avec le chien, le dernier quelques cent mètres, et on arrive sur un site qui est pristine, on a vraiment l'impression qu'on est quelque part qui n'a pas été touché par rien il y a très très longtemps, et ça fait extrêmement plaisir de pouvoir remettre des animaux dans des endroits comme ça où il n'y a pas été il y a longtemps. Et les moutons ont du travail, parce qu'il y a du travail à remettre le site en état comme c'était, et mes moutons étaient un peu choqués hier quand je les ai mis, parce qu'ils ont dit c'est quoi ça, parce que il y a du travail à faire. Donc je les ai dit bon courage les filles.
Alors justement, ça prend combien de temps pour un mouton pour nettoyer, si j'ose dire, un site, ou en tout cas jouer son rôle de tondeuse ?
Eh ben ça dépend un peu qu'est-ce qu'on veut et comment on veut que ça soit fait. Et là, j'ai mis une toute petite lot sur un espace qui est assez grand, sur la demande de la conservatoire, parce qu'on voudrait voir comment ça se passe. Normalement, si ça aurait été là, comme c'est un site qui a vraiment été, c'est vraiment beaucoup très sauvage, moi j'aurais mis un beaucoup plus grand lot pour que ça soit nettoyé, pour qu'on voit un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a là, parce qu'il faut un peu que ça, il faut vraiment un peu de volume pour traverser ça. Là ça va manger un peu sur le coin, mais ils vont avoir du mal à traverser vraiment dans la végétation très dense. Donc moi j'aurais normalement mis une lot beaucoup plus grand, peut-être 40 animaux, pour qu'ils aient vraiment l'occasion, la possibilité d'avoir un impact. Et après on voit un peu qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'ils n'ont pas touché, qu'est-ce qu'on a à nettoyer manuellement. Et finalement, on arrive à remettre une place comme ça. On est assez très efficace. Si on met une lot assez importante, c'est très efficace.
Alors, peut-être un petit aparté avec Sylvain. Alors, pourquoi ce choix, peut-être justement, d'un lot de moutons plus petit ?
Alors là, en fait, pour démarrer le pâturage sur le site du Fort à Roire, en fait, on a une contrainte. En fait, quand on met en œuvre du pâturage, faut déjà avoir plusieurs choses. D'une part, l'accessibilité, justement pour la bétaillère. Et après, il y a un point crucial, c'est l'accès à l'eau. Et en fait, sur le site du Fort à Roire, là, pour le moment, au niveau de la logistique, l'accès à l'eau ne nous permet pas de mettre un gros lot. Donc c'est pour ça que pour le moment, il y a un petit lot qui est installé sur le site. Et par la suite, on va installer le matériel nécessaire pour pouvoir accueillir plus de brebis. Parce que sinon, la contrainte serait de devoir apporter de l'eau trop souvent, à une fréquence assez importante. Donc là, c'est plutôt une contrainte technique plutôt qu'un choix. Parce que je rejoins effectivement ce qu'a dit Sabine tout à l'heure. En fait, là, on est sur... Dans un premier temps, on est en train de travailler sur la prairie qui est sur le site. En fait, il est composé d'une grande prairie, mais aussi d'une pelouse sèche. On travaille d'abord sur la prairie, qui est en train d'avoir pas mal de rejets. Et effectivement, quand on est sur une phase de restauration, là, on va augmenter ce qu'on appelle le chargement instantané. C'est-à-dire, sur une surface définie, on met un grand nombre d'animaux. Donc là, c'est un chargement instantané fort. Et en faisant ça, en fait, on réduit les préférences alimentaires. Ce qui fait, comme il y a une concurrence entre les animaux, ils ne vont pas, entre guillemets, avoir trop le temps de choisir. Moi, je préfère manger ça. Mmh. Là, ils vont se dire, en fait, je mange tout ce qui me passe sous les yeux, parce que si moi, je ne le mange pas, c'est mon voisin qui va le faire. Donc, en faisant ça, on aura moins de refus. Et là, les refus qu'on risquerait d'avoir, c'est effectivement la végétation ligneuse ou des herbacées qu'ils n'apprécient pas. Donc là, par exemple, après cette première phase de pâturage où justement le chargement est assez faible, on est quasiment sûr qu'on va se retrouver avec des refus de pâturage parce qu'effectivement, les moutons vont avoir le choix de ce qu'ils vont manger. Donc on va avoir des secteurs qui vont être beaucoup pâturés. C'est là où il va y avoir la végétation qu'ils vont apprécier. Et après, ailleurs, il va y avoir les refus et ça, c'est ce qu'ils vont bouder. Et effectivement, là, justement, quand on rechargera, ça permettra une bonne restauration. Mais par exemple, sur un autre site, au niveau de la Michellerie, à Praville, là, on a pris le parti également de restaurer le site avec des moutons. Et effectivement, ça marche vraiment très, très bien. En fait, il faut bien connaître ces moutons et puis aussi comment leur raisonnement et leur logique. Et là, ça va faire plus de 5-6 ans que les moutons sont sur place et on observe de manière très claire une diminution des arbustes et puis beaucoup plus de végétation. En plus, là-bas, il y a la particularité d'avoir une association avec des chèvres. Alors là, on dit le mouton est à la tondeuse et la chèvre à la débroussailleuse. C'est vrai, même si le mouton s'est débroussaillé aussi. C'est juste qu'il va plutôt consommer les jeunes rameaux qui sont encore tendres. Et puis, il va pas pouvoir consommer de manière très haute. Mais il peut quand même réouvrir des milieux de moutons.
On n'a pas parlé de la race de vos moutons.
Ah ben oui, moi j'ai deux races en fait. J'ai des Hampshire qui sont une race évian de Grande-Bretagne. Les races de moutons, comme de races de vaches, c'est souvent nommé après la région, l'endroit où ils viennent. Donc nous en France, on a les Rambouillet, on a les Îles-de-France par exemple, les Parisiens. Et ben moi j'ai donc des Hampshire qui viennent de Grande-Bretagne, qui est une race viande. Moi je les ai choisis parce que j'avais avant de Suffolk, mais des Hampshire ça ressemble beaucoup à de Suffolk, c'est le tête noire, mais ils ont de la laine partout, ils sont très mignons. Et pour moi, c'est important parce que parfois, c'est un travail très, très dur. Parfois, on peut, des longues périodes, on ne peut pas dormir dans son lit, on s'occupe d'eux, parfois, c'est vraiment pénible. Donc, il faut, pour moi, d'avoir d'affinité pour mes animaux. Quand je les regarde, il faut que je les trouve jolis. Et moi, je trouve Hampshire, c'est très mignon. Ça a de laine partout, ça descend entre les oreilles, jusqu'au nez et jusqu'aux genoux. Donc, mon tondeur n'est pas content que j'ai pris cette race. C'est apparemment le pire à tondre parce qu'il y a de laine partout, mais ils sont vraiment, vraiment mignons. Les animaux sont super mignons. Donc, moi, j'ai pris cette race parce que c'est rustique, mais aussi parce que je les trouve mignons. Je les trouve agréables à travailler avec, et ça me fait sourire quand je le vois. Et j'ai aussi une deuxième race, des Solognottes, qui vient bien sûr de Sologne. Donc c'est une race française qui est très rustique, et marron, et ça semble des animaux sauvages, de daims, parce que c'est de chambres très longues et ils ont beaucoup moins de viande. Et c'est une race ancienne qui est travaillée exactement comme des broussailleuses. On pourrait le mettre où il n'y avait pas de nourriture très riche. Et donc ça, c'est une race qui est en train de disparaître parce qu'ils ne sont pas très gros. Et ils n'ont pas beaucoup de viande et on n'a plus besoin des animaux pour nettoyer comme ça. Nous, on a maintenant des pâtures qui sont assez riches. Donc pour eux, ce n'est pas idéal en fait de manger très riche. Ils ne sont pas faits pour. Et comme ils rendent pas beaucoup de viande, nous on est payé par kilo pour les animaux. C'est autant de travail d'élever ça, mais ça donne moins de rendement pour nous. Mais moi je le trouve très joli et en plus ils sont très rustiques. J'aime le couleur marron. Donc j'ai quand même quelques solognottes aussi avec mes Hampshire.
Alors là, on est visité par certains de vos chiens. Un petit mot quand même sur les chiens.
Ah ben oui, ben moi, pour le moment, c'est 5 chiens. C'est 4 générations différentes. 4 générations de la même lignée, mes lignées à moi. Donc, c'est la plus vieille, c'est la arrière-grand-mère des plus jeunes. Les plus jeunes, ça qui vous a sauté dessus, c'est les stagiaires, on peut dire, les apprentis. Ils ont un an, donc ils commencent à apprendre leur métier. Ils sont pas très utiles pour le moment. Ça, c'est la période où on le vend pas cher parce qu'ils font beaucoup de bêtises et ils sont pas très utiles. Mais on espère que dans une année, ils devraient commencer à faire leur travail. Et ben, il y a aussi ceux qui sont en retraite, qu'il faut bien qu'ils restent. Et donc, c'est pour ça que si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que j'aurais autant de chiens, j'aurais jamais cru. Mais en fait, c'est très important de s'assurer qu'on a toujours la relève. Et donc, il faut qu'on commence déjà à former ceux qui vont prendre la relève de ceux qui sont actifs aujourd'hui. Presque toutes les semaines, j'ai des gens, des agriculteurs qui m'appellent parce que quelque chose est arrivé à leur chien. Et ils ne peuvent plus rentrer leur vache, ils ne peuvent plus sortir leur mouton. Et ils pleurent et ils disent, mais vous n'avez pas un chien à me prêter, à me vendre tout de suite. Et ça, ce n'est pas facile à trouver. Donc, c'est très important qu'on pense toujours à la relève. Bien sûr, les vieux sont toujours là. Donc, c'est rare que je pas moins que 5 chiens. Hein.
C'est une race de chiens qui est assez à la mode. Est-ce que c'est fait pour tout le monde?
Non, c'est vraiment un chien de travail. C'est des chiens qui ont été sélectionnés pour beaucoup d'activités, pour être infatigable, d'être un peu fanatique, un peu toqué, on peut dire, parce que c'est ça que j'ai besoin de le travail. On a des très très longues journées qui peuvent être pénibles. On est dans la boue, dans la pluie, toute la journée, on n'a pas du temps à se reposer, on n'a peut-être pas mangé toute la journée, il fait froid et les animaux sont pénibles, on n'arrive pas à faire ça qu'on veut, on s'énerve tout le monde, le chien, moi, les moutons. Et ben, il faut que le chien ne lâche pas. Et ça ne convient pas à une chienne de compagnie qui va rester dans un jardin la plus grande partie de la journée et peut-être avoir une grande balade par semaine s'il fait beau et les enfants ne sont pas occupés. Et ça ne convient pas du tout. Ce sont des chiens qui sont avec moi toute la journée. Ils sont très liés à moi. Et donc, même s'ils ne travaillent pas, comme on circule, ils sont toujours dans la voiture avec moi. Ils voient beaucoup de monde, ils voient beaucoup de autres chiens. Ils sont, même si je vais juste à Leclerc, je les laisse derrière dans la voiture avec les portes ouvertes, un grillage, et tout le monde qui passe, ils s'arrêtent et se disent, oh, comme ils sont mignons. Donc, et quand je sors Leclerc et je fais mes courses, ben, mes chiens ont vu beaucoup de monde. Ils ont quand même eu une excursion qui était intéressante pour eux. Donc, le soir, ben, là, vous voyez, on est entouré par 5 border collies qui est quand même la race une de plus sportif et active qui existe, mais ils sont tous calmes, hein, on ne le voit pas. Il y a aucun qui est énervé. Ils sont venus vous voir une fois, mais pour le reste, ils ont couché parce qu'ils ont déjà été durs. Ce matin, on a déjà travaillé. Donc, non, c'est important qu'ils ont de. Moi, quand je vends mes chiots, je vends juste aux gens qui travaillent avec leurs chiens toute la journée pour que le chien n'est jamais fermé. Donc, c'est des gens qui circulent avec le chien dans la voiture ou à sa côté. Et pas trop jeunes enfants, pas parce que ça ne va pas avec, mais parce que des gens qui ont de jeunes enfants, il faut qu'ils s'occupent de ces enfants. Et ça, bien sûr, la priorité. Donc, ça, je trouve complètement normal, mais donc il ne faut pas prendre aussi un chiot parce qu'on n'a pas le temps de consacrer aussi au chiot. Donc moi je suis assez exigeante quand je mets mes chiots et si je attends que la personne qui m'appelle, que ce n'est pas la mode de vie qui convient à une border collie, ben je leur conseille des autres races.
Alors revenons à nos moutons. L'éco-pâturage pratiqué par le conservatoire, quel est l'intérêt pour vous?
Déjà, je trouve que l'objectif est tout à fait intéressant. Je trouve très intéressant de retourner dans les méthodes qu'on a utilisées. Je trouve très triste quand on perd un peu le paysage qu'on avait autour de nous, quand on avait de pâturage. Tout le monde avait quelques moutons, une ou deux vaches, quelques chèvres, ben ça nettoyait partout parce que tout le monde faisait comme moi, ils circulaient avec leurs animaux pour trouver à leur nourrir et ça nettoyait la nature autour de nous. On avait des espaces ouverts où ça respirait, on avait des autres types de fleurs que dans la forêt. Et on perd parce qu'il faut se rappeler que l'agriculture est quand même vieux, on a eu ça très longtemps et ça formait la nature autour de nous. Le paysage, les fleurs, les animaux, ils se sont adaptés à notre vie, de notre manière de produire notre nourriture. Et maintenant, quand la manière de faire l'agriculture a changé, la manière que nous vivons a changé, ben, la nature a pas pu suivre et on est en train de perdre pas seulement de compétences mais aussi de variété dans notre nature, parce que nous on a beaucoup de cultures qui sont très très spécifiques, spécialisées, donc c'est monoculture, mais donc ça veut dire qu'on perd la diversité, et un jour peut-être on aura besoin de cette fleur ou cette plante ou cet animal pour quelque chose, et ça n'est plus là. En plus, la compétence comme celle que j'essaye d'apprendre, de mettre que j'ai appris, ben c'est un métier qui est en train de disparaître, donc c'est beaucoup de compétences qui est en train de disparaître, de connaissances de moutons, de connaissances de troupeaux, ce chien. Et moi, ça me fait énormément plaisir, je le trouve vraiment un privilège de pouvoir travailler avec de conserver ces compétences, cette biodiversité.
Donc tous les petits chemins qu'on voit là, ce sont les moutons qui ont...
À l'intérieur, ouais.
Ouais. Sylvain, nous voici sur le site de Fort-Arroy. Alors, on va rappeler qu'il n'est pas ouvert au public, ce site. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ?
Alors, le site de Fort-Arroy est un site qui appartient à l'État, en fait, qui en a délégué la gestion en 2018. Donc c'est la direction régionale des affaires culturelles qui a délégué la gestion de ce site au conservatoire, donc qui présente deux enjeux forts. D'une part, c'est un site archéologique, d'où le fait qu'il n'est pas ouvert au public. Et ensuite, bah, il a des enjeux écologiques, puisque le site abrite des prairies et également de la pelouse sèche calcicole, un habitat d'intérêt européen.
C'est vrai qu'on parle souvent des pelouses calcicoles à la radio dans Toucher Terre. On a aussi parlé des prairies. C'est quoi en fait la différence entre les deux ?
Ça va être par rapport au cortège de végétaux qui vont être présents. Sur une prairie, on va avoir surtout des hautes herbes, alors que sur une pelouse, notamment une pelouse sèche, on va avoir de l'herbe assez rasque et qui va avoir tendance à jaunir l'été. Alors que sur les prairies, en général, elles restent quand même assez verdoyantes. Donc de manière générale, les prairies, c'est beaucoup plus riche. Enfin, c'est beaucoup plus dense en termes d'herbacées et des herbacées assez hautes. Mmh. Et les pelouses sèches, c'est des milieux assez rares et des herbes qui sont beaucoup moins denses.
Donc forcément, on trouve des espèces végétales qui sont différentes, et j'imagine aussi des insectes qui peuvent être différents d'un milieu à l'autre.
Complètement. Sur les pelouses sèches, on a effectivement une herbacée, on va dire caractéristique, qui s'appelle le brachypode. On a des petites fétugues bleues aussi. Donc des plantes qui vont vraiment pousser que sur ce milieu-là. Et tout le cortège faunistique qui va avec, donc certains criquets, sauterelles, papillons, qu'on va retrouver que sur des pelouses sèches. En parlant des criquets, il y a les oedipodes, qui sont des criquets qui affectionnent beaucoup la chaleur et qu'on va retrouver que sur de la pelouse sèche ou des milieux rocailleux. En termes de graminées, sur les prairies, on va avoir de la fléole, du pâturin, qui sont des graminées très 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 hautes. Et ici, on est sur des prairies qui sont un petit peu dégradées, donc on a par-ci par-là quelques prunelliers qui repoussent. Et puis, en termes d'herbacées, on a quand même un mélange avec des plantes qui sont quand même de pelouse sèche. On voit un petit peu d'origan.
Vous venez d'employer un terme qui pourra peut-être surprendre les auditeurs, des prairies dégradées, alors que c'est vrai que quand on regarde, on n'a pas, l'impression d'une quelconque dégradation, c'est un très beau site. Ces pruneliers-là, pourquoi est-ce qu'ils sont gênants ? Et j'imagine que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous mettez en place de l'éco-pâturage sur ces sites.
Alors d'une manière générale, les prairies ou les pelouses sèches, c'est ce qu'on appelle des habitats ouverts. Des habitats qui sont pour la plupart complètement liés aux activités humaines, notamment l'élevage. L'abandon de l'élevage, de l'entretien, etc. là, fait que petit à petit, il va y avoir une colonisation par les ligneux, donc par les buissons. Et c'est là qu'on dit que l'habitat se dégrade, parce qu'on commence à avoir quelques buissons et à terme, un boisement progressif. Et tout le cortège de plantes et d'animaux qui étaient afféodés à la prairie vont plus pouvoir subsister, puisqu'on va se retrouver dans un autre habitat. On va être par exemple justement dans des buissons, ce qu'on appelle la fruticée, et à terme ça devient un boisement. Et les espèces qu'on va retrouver dans des boisements ne sont pas du tout les mêmes.
L'éco-pâturage, là, ça va être une nouveauté pour ce site de Fort-Aroire, mais ce n'est pas une nouveauté pour le Conservatoire d'espaces naturels et notamment l'antenne eurélienne.
Alors pour l'antenne eurélienne, effectivement, là, ces dernières années, les partenariats avec des éleveurs, mais aussi avec le conseil départemental, permet le développement des surfaces qui sont entretenues par ce moyen-là. Parce que s'il n'y a pas de pâturage, on fait une intervention mécanique. Et une intervention mécanique pour la biodiversité, ce n'est pas l'idéal, puisqu'on va faire une coupe nette et franche à un instant T. Donc la végétation va être très homogène en termes de hauteur, alors que le pâturage permet de diversifier l'hauteur de végétation, ce qui est très intéressant notamment pour les insectes. Donc en Eure-et-Loire, à l'heure actuelle, on a 35 hectares qui sont gérés grâce à du pâturage par le biais de 7 partenariats différents, donc à différents profils. Hein. Donc on a le cheptel du conseil départemental d'Eure-et-Loire qui pâture notamment en Vallée de l'Aigre. Avec différents types d'animaux aussi, puisqu'on a les chevaux camargués à la tourbière des Frous, mais aussi aux prairies des Mousseuses, les chèvres angoras de l'élevage de la ferme de la Bouquetière au pont Audet, Sabine Heller justement avec ses brebis de race Hampshire à Fort-Aroire, Nicolas Maucourt qui pâture avec des brebis bleues du Maine, mais aussi avec des chèvres de Lorraine. Voilà, on a pas mal de types d'animaux différents, de races différentes, mais qui accomplissent tous le même objectif, et sur des milieux différents, que ce soit des pelouses, des prairies, mais aussi des tourbières.
L'objectif, c'est de développer encore un peu plus ces partenariats ?
Alors complètement, nous l'objectif, c'est de tisser des liens déjà avec des éleveurs, hein, puisqu'on rentre complètement dans les piliers du développement durable, qui sont... l'environnement, mais aussi le développement économique local. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est tisser des partenariats, puisqu'on met à disposition les terrains. En fait, on part sur un partenariat gagnant-gagnant. On met à disposition les terrains, on finance les clôtures, le matériel, on le met à disposition gratuitement aux éleveurs. Et en contrepartie, eh bien, du coup, ils entretiennent le terrain. Et bien entendu, on ne donne pas non plus des contraintes fortes, parce qu'on sait très bien que l'élevage, déjà, est très contraignant par nature. Donc, on cherche justement un compromis pour bien s'inscrire dans le schéma de production de l'exploitation et pour voir justement comment inscrire ces terrains-là dans leur modèle actuel.